Soyez fort dans le Seigneur. De temps en temps, je vais à la salle de sport à l'étage, au quatrième étage, pour courir ou m'entraîner. Il y a quelques jours, j'étais dans le vestiaire et il y avait un gars à côté de moi, devant le miroir. Il était torse nu et faisait différentes poses pour regarder ses muscles. Même si j'avais de gros muscles, je serais trop embarrassé pour faire des poses devant le miroir devant quelqu'un d'autre. Mais cela ne le dérangeait pas. Il continuait à faire des poses en enchaînant d'autres mouvements. J'admire sa confiance en lui. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de la lettre de Paul aux Éphésiens, que nous étudions depuis le mois de février. Et le dernier encouragement de Paul à l'Église, c'est d'être fort. Quand on pense à être fort, on pense généralement aux muscles, comme le gars que j'ai vu cette semaine en train de se regarder dans le miroir. Mais que signifie être fort dans le Seigneur? C'est ce que je veux examiner ce matin. Alors si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Éphésiens 6, 10. 10. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Le verset 10 commence par Paul qui dit « Enfin ». Il est en train de conclure la lettre. Il a évoqué tant de sujets dans cette lettre. Comment fonctionne le salut? Que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ? Comment nous sommes unis en Christ, peu importe la culture dont vous venez? Et ces dernières semaines, nous avons lu comment être chrétien à l'Église, à la maison et au travail. Paul résume tout cela en disant « Soyez forts ». Nous verrons dans un instant pourquoi nous devons être forts. Mais il est important que vous compreniez comment être fort. Paul ne dit pas d'aller vous regarder dans le miroir et d'examiner vos muscles. Il ne s'agit pas d'être fort par votre propre puissance ou par vos propres forces. Le verset 10 dit de vous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. En d'autres termes, être fort n'est pas quelque chose que vous devez susciter par vous-même. Être fort, ce n'est pas se regarder dans le miroir et se répéter « Sois fort, sois fort, sois fort ». Il ne s'agit pas de se regarder dans le miroir, il s'agit de regarder vers le Seigneur, de s'appuyer sur sa force. Il ne s'agit pas de se dire à soi-même « Sois fort, sois fort ». Il s'agit de regarder vers le ciel et de dire « Seigneur, aide-moi à être fort ». Et Dieu vous a déjà donné les ressources pour être fort. 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Comment être fort dans le Seigneur? En revêtant toute l'armure de Dieu. Nous verrons ce que cela signifie dans un instant, mais dans ces versets, nous comprenons pourquoi nous avons besoin d'être forts dans le Seigneur. Nous devons être forts dans le Seigneur parce qu'il y a un combat spirituel. Comme quelqu'un l'a dit un jour, la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et la bataille se mène contre le diable et ses ruses. Le diable, ou Satan, est un ange déchu qui s'oppose aux œuvres de Dieu. La Bible nous dit qu'il est menteur et séducteur. Et ici nous lisons qu'il trame des plans contre vous. En d'autres termes, Satan n'est pas neutre. Il veut vous voir tomber, il veut vous voir échouer. Au verset 12, Paul dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Autrement dit, vous pourriez penser que vous vous battez sans cesse contre telle ou telle personne, ou bien vous regardez les informations, et vous vous dites, « Eh bien, cette personne est l'ennemi. » Mais Paul affirme qu'il y a quelque chose de bien plus profond à l'œuvre. Il y a une cause profonde qui explique ce comportement. Et c'est spirituel. Si le combat était vraiment contre des personnes, alors il vous faudrait des épées littérales, de véritables casques ou des boucliers physiques. Mais nous voyons ici que le combat est bien plus profond. Il est cosmique, C'est la lutte entre le bien et le mal. Chaque fois que nous lisons des versets qui parlent du diable, des démons ou du mal, je veux toujours vous rappeler quelques vérités que nous connaissons grâce à la Bible. Nous commettons une erreur lorsque nous sous-estimons le mal, lorsque nous faisons semblant qu'il n'existe pas. Comme je l'ai dit, la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille, et Paul le souligne ici. Vous devez être prêt, vous devez être fort dans le Seigneur, vous devez revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Ne sous-estimez pas le diable, ni le mal, mais l'autre erreur serait aussi de le surestimer, de donner trop de crédit au diable. Il y a certains chrétiens qui passent plus de temps à penser au diable qu'à Dieu. De plus, certains chrétiens attribuent à tort des attributs de Dieu au diable. Nous savons que Dieu possède les trois omni. Omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, omniscient, c'est-à-dire qui sait tout, et omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est toujours là. Mais parfois, des croyants reprennent ces trois omni et pensent que Satan les possède aussi. Que le diable est tout-puissant, qu'il sait tout et qu'il est partout. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas tout-puissant. C'est pourquoi nous pouvons tenir ferme contre lui et ses ruses. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas partout. C'est pourquoi il a besoin d'aide, ce dont Paul parle au verset 12. Le diable n'est pas éternel. Le diable a été créé. Ne sous-estimez pas le diable, mais ne le surestimez pas non plus. Regardons maintenant l'armure de Dieu que Paul a mentionnée. 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Réfléchissons à cette armure de Dieu. À cette époque, les gens voyaient les soldats romains entièrement équipés. Ils savaient donc ce qu'étaient les casques, les boucliers, etc. Mais Paul va prendre cette armure et la spiritualiser. Ces armes et cette protection nous rappellent que le combat spirituel se fait de près. Ce n'est pas une bataille à distance. Il n'est pas question de drone. C'est un combat corps à corps auquel les croyants prennent part chaque jour. La première pièce de l'armure qui est mentionnée est la ceinture de la vérité. À l'époque, la ceinture maintenait tout ensemble et pouvait porter les autres armes. De la même manière, en tant que croyants, nous croyons en la vérité. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il est le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit plutôt que le diable est un menteur, mais Jésus est la vérité. En tant que croyants, nous croyons en la vérité de l'Évangile. Que Jésus est venu, est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour, et que par la foi en lui, nous pouvons être libérés de l'esclavage du péché et rendus vivants en Christ. Tout comme une ceinture, cette vérité tient tout ensemble. Nous l'appliquons à tous les aspects de la vie. Alors, mettez la ceinture de la vérité. Ensuite, vient la cuirasse de la justice. Lors des combats, la cuirasse était faite de métal et couvrait la poitrine du soldat afin de protéger ses organes vitaux. En Christ, Dieu nous rend justes. Il nous donne sa justice. Nous cherchons alors à éviter le péché et à mener une vie sainte par la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit là du caractère. Pour résister aux flèches du monde, vous devez continuer à grandir en caractère et en piété. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. La pièce d'armure suivante, ce sont les chaussures. À cette époque, les chaussures des soldats étaient des sandales munies de clous qui sortaient de la semelle, un peu comme les crampons que portent les athlètes aujourd'hui. Les clous donnaient aux soldats de l'adhérence, les aidant à tenir debout et à se déplacer. Paul dit que nos chaussures viennent de l'évangile de paix. Il est intéressant de constater que Paul parle de paix, tout en nous disant de revêtir notre armure. Mais la paix que nous avons en tant que chrétiens n'est pas comme la paix de ce monde. La paix de ce monde signifie l'absence de conflit. Mais la paix de Dieu, il vous la donne au milieu du conflit. C'est la paix qui dépasse toute intelligence. Quand la bataille viendra, et elle viendra, vous n'avez pas à paniquer, vous n'avez pas à avoir peur. Vous pouvez tenir ferme, vous pouvez vous reposer, parce que vous êtes affermi en Christ. Vous ne glisserez pas, vous ne tomberez pas, vous ne serez pas ébranlé. Vous pouvez rester calme, parce que le Seigneur vous a donné sa paix. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne craignez point. Mettez les chaussures données par l'évangile de paix. 6. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Un bouclier était très important pour un soldat. C'est la meilleure forme de protection. Le bouclier dont Paul parle ici n'était pas un petit bouclier, mais un grand bouclier rectangulaire qui couvrait tout le corps. Paul dit qu'avec le bouclier de la foi, vous pouvez non seulement supporter les flèches enflammées du diable, mais aussi les éteindre. À cette époque, ils imbibaient leur bouclier d'eau pour éteindre les parties enflammées. Le bouclier de la foi, c'est croire et faire confiance à Dieu chaque jour, quoi qu'il arrive. Se confier en l'Éternel de tout son cœur. Croire qu'il ouvrira un chemin. Croire qu'il vous fera traverser l'épreuve. L'ennemi enverra des flèches enflammées contre vous pour essayer de vous faire douter, pour essayer de vous faire peur, mais soyez forts dans le Seigneur. Nous marchons par la foi et non par la vue. Prenez le bouclier de la foi. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La pièce suivante de l'armure est le casque du salut. À cette époque, les soldats romains portaient des casques en bronze pendant la bataille. Cela protégeait leurs joues et leurs coups. C'était solide. Paul nous donne cette image du casque du salut. Maintenant, en tant que croyants, nous avons déjà le salut. Nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas quelque chose que l'on enlève et remet tout le temps. Vous l'avez déjà. Mais c'est une vérité que nous devons constamment appliquer à nos vies. Il peut être facile d'oublier comment nous avons été sauvés, que c'était par la grâce, au moyen de la foi en Christ. Nous pouvons facilement revenir au modèle de performance du monde. Nous pouvons croire à tort que Dieu nous accepte ou nous rejette en fonction de nos performances. Nous pouvons croire à tort que si j'ai une bonne journée, alors Dieu m'aime, mais si j'ai une mauvaise journée, alors Dieu est en colère contre moi. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas comme cela que vous avez été sauvés. Éphésiens 2 dit que ce n'était pas par les œuvres. Vous ne pouviez pas le payer, vous ne pouviez pas le mériter. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'était un don de Dieu. Alors, prenez le casque du salut. La dernière pièce de l'armure est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Une épée servait à la protection, à la défense, mais l'épée était aussi utilisée pour l'attaque, pour engager le combat. Quand nous pensons aux épées, nous pensons souvent à une longue épée. Mais l'épée dont Paul parle ici est une petite épée. Elle était utilisée pour se battre à courte distance. C'est un rappel que le combat est quotidien, et qu'il ne se mène pas à distance. Quelle est notre épée dans le combat spirituel? C'est la parole de Dieu. J'avais un ami qui appelait toujours la Bible une épée. Donc, quand nous allions à l'église, il demandait toujours à tout le monde, « As-tu apporté ton épée ?» Pour ceux qui ne connaissaient pas Éphésiens 6, Ils se demandaient, « De quoi parlez-vous ? » Mais j'aimais ce que mon ami voulait dire. On ne partirait jamais à la guerre sans épée ou sans armes. Alors pourquoi essayer de vivre sans la parole de Dieu ? Quand Jésus a été tenté dans le désert par Satan, il s'est appuyé sur l'épée, la parole de Dieu, pour combattre les mensonges de l'ennemi. Il continuait de corriger le diable en disant, « Il est écrit. » Maintenant, en un sens, aujourd'hui tout le monde a son épée. La Bible est sur nos téléphones, et la plupart des gens ont toujours leur téléphone. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a une épée qu'il sait l'utiliser. Ce n'est pas parce que quelqu'un possède une épée qu'il a été formé à s'en servir ou qu'il a de l'expérience pour l'utiliser. En d'autres termes, oui, vous avez une Bible sur votre téléphone, mais savez-vous comment l'utiliser dans le combat? Avez-vous été formé par elle? L'avez-vous lue? Est-elle cachée dans votre cœur? Pour utiliser la parole correctement, pour utiliser correctement la parole de Dieu, il faut la connaître afin de pouvoir l'appliquer comme il faut. Quelle est la meilleure façon de la connaître? En la lisant, en l'écoutant, en recevant un enseignement à partir d'elle. N'allez pas au combat sans votre épée. C'est donc cela, l'armure de Dieu, que nous devons revêtir. Un point important à noter est que vous recevez toutes les pièces au moment du salut. Ce n'est pas comme dans un jeu vidéo où il faut passer un niveau pour obtenir la cuirasse de la justice, puis passer au niveau suivant pour recevoir le casque du salut. L'armure de Dieu ne vient pas en morceaux, elle vient en kit complet. Elle vous a été donnée, en Christ, mais vous devez la revêtir. L'armure ne peut pas vous aider si vous la laissez dans le placard. Vous devez la porter chaque jour. Ce n'est pas seulement un équipement de combat, c'est votre uniforme. Revêtez l'armure de Dieu. Mais j'aimerais prendre un peu de recul. Je veux relire ces versets, et je veux que vous remarquiez ce qui s'y trouve, et je veux que vous remarquiez ce qui n'y est pas. 10. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans ce long passage sur le combat, quel est le mot que l'on pourrait s'attendre à trouver, mais qui n'y est pas? Le mot qui manque dans ces versets, c'est le mot « gagner ». Quand nous pensons au combat ou à la guerre, nous pensons aux gagnants et aux perdants. Qui a gagné la bataille ou qui a perdu la bataille? Mais le mot « gagner » n'est pas ici. Je pense que nous obtenons notre réponse en voyant le mot que Paul mentionne à plusieurs reprises. Quel est le mot que nous voyons dans ces versets encore et encore? C'est le mot « tenir ferme ». Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et ayant revêtu la cuirasse de la justice. La raison pour laquelle vous ne trouverez pas le mot « gagner » dans Éphésiens 6, c'est parce que la bataille a déjà été gagnée. Jésus a vaincu le péché et la mort une fois pour toutes. Il a triomphé du tombeau. Il a dépouillé les dominations et les autorités mentionnées au verset 12, et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles en lui. Vous n'avez pas besoin de gagner la bataille, car la bataille a déjà été gagnée. Ce que vous devez faire, c'est tenir ferme dans la victoire. Comme je l'ai dit plus tôt, parfois, nous attribuons à tort les attributs de Dieu au diable. Et je pense aussi que parfois, nous donnons trop de crédit au diable. Ce n'est pas une question de 50-50. Ce n'est pas que notre Dieu est puissant et que Satan l'est tout autant. La dernière fois que j'ai vérifié, notre Dieu est plus grand. La dernière fois que j'ai vérifié, notre Dieu est plus fort. La dernière fois que j'ai vérifié, notre Dieu est au-dessus de tout. La dernière fois que j'ai vérifié, notre Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas une question de 50-50. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan a-t-il une certaine autorité dans ce monde? Oui, mais il est comme un chien en laisse. Un chien en laisse peut bouger, il peut aboyer, il peut sauter. Mais dès qu'il essaie d'aller au-delà de la longueur de la laisse, il est arrêté. Nous servons le Dieu très haut. Romains 8, 37 dit que nous sommes plus que vainqueurs par Christ, qui nous aime. Il y a un combat spirituel chaque jour, mais vous n'êtes pas dans l'équipe perdante. N'entrez pas dans la bataille en pensant que vous allez être vaincu. Entrez dans la bataille en sachant qu'elle a déjà été gagnée. Vous devez toujours vous équiper. Vous vivez toujours dans un monde pécheur et brisé. Vous devez toujours revêtir l'armure de Dieu. Mais vous pouvez être fort dans le Seigneur, sachant que Jésus a déjà remporté la victoire. Il vous suffit de tenir ferme dans la victoire, avec la vérité, avec la foi, avec la paix. Alors, comment faire? Comment tenir ferme dans la bataille avec l'armure de Dieu? Verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. C'est par la prière. Fab a prêché là-dessus il y a quelques semaines, donc je n'irai pas trop en profondeur sur ce sujet ici. Mais ce n'est pas comme si Dieu vous envoyait au combat en disant « débrouille-toi tout seul ». Non. Dans la bataille, nous nous tournons vers Dieu par la prière. À quelle fréquence? Le verset 18 dit « en tout temps ». Dans l'esprit, et par des supplications. N'entrez pas dans la bataille sans votre épée, et n'entrez pas dans la bataille sans prier. Le Seigneur est votre aide. Le Seigneur est votre part et votre force pour toujours. Adressez-vous à lui dans la prière. 18. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, en intercédant pour tous les saints. 19. Et aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Paul dit, soyez vigilants, persévérez, priez les uns pour les autres. Et il demande aussi la prière pour lui-même. Rappelez-vous, Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Mais sa demande de prière n'est pas de sortir de prison. Sa demande de prière est de rester hardi, de continuer à proclamer l'Évangile. Penses-tu que Paul aimait être en prison? Je ne le pense pas. Penses-tu que Paul aimait ces circonstances? Je ne le pense pas. Mais c'est là qu'il était. Au lieu de prier « Dieu change mes circonstances », sa prière était « Dieu change-moi, utilise-moi ». Aujourd'hui, il se peut que tu n'aimes pas tes circonstances. Il se peut que tu n'aimes pas l'endroit où tu en es dans ta vie. Mais peu importe où tu es, tu peux considérer cela comme une opportunité que le Seigneur t'a donnée d'être une lumière pour lui. Il se peut que tu ne comprennes pas le plan de Dieu en ce moment. Il se peut que tu ne comprennes pas ce qu'il est en train de faire. Mais tu peux te reposer sur le fait qu'il est bon et que ses voies sont bonnes. Si tu continues à prier et à demander à Dieu de changer tes circonstances et que cela ne se produit pas, se pourrait-il qu'il y ait quelque chose que le Seigneur veuille changer en toi? Réfléchis à cela. 21. Afin que vous sachiez vous aussi comment je vais et ce que je fais, Tychique, le frère bien-aimé et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. 22. Je l'ai envoyé vers vous exprès, pour que vous connaissiez notre situation et qu'il réconforte vos cœurs. Tychique faisait partie de l'équipe de ministère de Paul. Ils ont servi ensemble pendant longtemps. Et Paul l'envoie à l'église, afin qu'il reçoive un rapport personnel sur sa situation. Dernier verset. 23. Que la paix soit avec les frères, et l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour incorruptible. Paul conclut sa lettre en prononçant la paix, l'amour et la foi sur eux, par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Il est approprié de trouver le mot « grâce » dans le dernier verset, puisque la grâce a été le thème d'Éphésiens. Alors que nous avons étudié cette lettre, j'espère que tu as pu voir à quel point la parole de Dieu est riche. Comme je l'ai dit au début, les trois premiers chapitres d'Éphésiens sont principalement de la théologie, et les trois chapitres suivants expliquent comment appliquer cette théologie à notre vie quotidienne. Et tu as besoin des deux. Si tu n'avais que les trois premiers chapitres remplis de théologie, tu ne saurais peut-être pas comment l'appliquer à ta vie. Et si tu n'avais que les trois derniers chapitres centrés sur l'application, tu ne connaîtrais peut-être pas les raisons pour lesquelles nous sommes appelés à faire ces choses. Nous avons commencé cette étude d'Éphésiens en gravant les versets 2, 8, 9 sur les deux supports. Nous avons fait un sondage, et parmi tous les versets de la Bible, vous avez choisi cela. Il y a une raison à cela. Parce que si tu peux comprendre la grâce étonnante de Dieu, alors tu pourras accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Si tu comprends la grâce de Dieu, alors tu sauras que ce n'est pas une question d'être fort par ta propre force. Ce n'est pas une question de se regarder dans le miroir et d'essayer de se muscler pour avoir de gros bras. Il s'agit d'être fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Alors tenez ferme, restez sur vos positions, priez constamment, restez vigilants. Il y a un combat dehors. Les ruses du diable peuvent sembler puissantes, mais le diable n'est pas à la hauteur de Jésus. Tenez-vous dans la victoire que Jésus a déjà remportée. Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père. L'amour avec la foi de la part de notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Fin du sermon. Fin du sermon.